Cinquième partie. Voici, madame, la cinquième partie de ma vie. Il n'y a pas longtemps que vous avez reçu la quatrième, et j'aurais, ce me semble, assez bonne grâce à me vanter que je suis diligente, mais ce serait me donner des airs que je ne soutiendrais peut-être pas, et j'aime mieux tout d'un coup entrer modestement en matière. Vous croyez que je suis paresseuse, et vous avez raison. Continuez de le croire, c'est le plus sûr et pour vous et pour moi. De diligence, n'en attendez point. Oh, je l'aurai peut-être quelquefois, mais ce sera par hasard, et sans conséquence, et vous m'en louerez si vous voulez, sans que vos éloges m'engagent à les mériter dans la suite. Vous savez que nous dînions, Madame de Mirand, Falville et moi, chez Madame d'Orsin, dont je vous faisais le portrait, que j'ai laissé à moitié fait, à cause que je m'endormais. Achevons-le. Je vous ai dit combien elle avait d'esprit, nous en sommes maintenant aux qualités de son cœur. Celui de Madame de Mirand vous a paru extrêmement aimable. Je vous ai promis que celui de Madame d'Orsin le vaudrait bien. Je vous ai en même temps annoncé que vous verriez un caractère de bonté différent, et de peur que cette différence ne nuise à l'idée que je veux vous donner de cette dame, vous me permettrez de commencer par une petite réflexion. Vous vous souvenez que dans Madame de Mirand, je vous ai peint une femme d'un esprit ordinaire, de ces esprits qu'on ne loue ni qu'on ne méprise, et qui ont une raisonnable médiocrité de bon sens et de lumière, au lieu que je vais vous parler d'une femme qui avait toute la finesse d'esprit possible. Ne perdez point cela de vue. Voici à présent ma réflexion. Supposons la plus généreuse et la meilleure personne du monde, et avec cela la plus spirituelle et de l'esprit le plus délié. Bien, je soutiens que cette bonne personne ne paraîtra jamais si bonne, car il faut que je répète les mots, que le paraîtra une autre personne qui, avec ce même degré de bonté, n'aura qu'un esprit médiocre. Quand je dis qu'elle paraîtra moins bonne, pourvu encore qu'on lui accorde de la bonté, qu'on n'attribue pas à son esprit ce qui ne paraîtra que dans son cœur, qu'on ne dise pas que cette bonté n'est qu'un tour d'adresse de son esprit. Et voulez-vous savoir la cause de cette injustice qu'on lui fera de la croire moins bonne? Eh bien, la voici en partie, si je ne me trompe. C'est que la plupart des hommes, quand on les oblige, voudraient qu'on ne sentît presque pas et le prix du service qu'on leur rend et l'étendue de l'obligation qu'ils en ont. Ils voudraient qu'on fût bon sans être éclairé. Cela conviendrait mieux à leur ingrate délicatesse, et c'est ce qu'ils ne trouvent pas dans quiconque a beaucoup d'esprit. Plus il en a, plus il les humilie. Il voit trop clair dans ce qu'il fait pour eux. Cet esprit qu'il a en est un témoignage trop exact et peut-être trop superbe. D'ailleurs, il ne serait plus manqué de reconnaissance sans en être honteux, ce qui les fâche au point qu'ils en manquent d'avance, précisément à cause qu'on sait trop toutes celles qu'ils doivent. S'ils avaient affaire à quelqu'un qui le sût moins, ils en auraient davantage. Avec cette personne qui a tant d'esprit, il faudra, se disent-ils, qu'ils prennent garde de ne pas paraître ingrats, au lieu qu'avec cette personne qui en aurait moins, leur reconnaissance leur ferait presque autant d'honneur que s'ils étaient eux-mêmes généreux. Voilà pourquoi ils aiment tant la bonté de l'une, et pourquoi ils jugent avec tant de rancune de la bonté de l'autre. L'un sait bien en gros qu'elle leur rend service, mais elle ne le sait pas finement. La moitié de ce qui est en lui échappe faute de lumière. C'est autant de rabattus sur leur reconnaissance, autant de confusion d'épargnés. Ils sont servis à meilleur marché, ils lui en savent si bon gré qu'ils la croient mille fois plus obligeante que l'autre. Quoique le seul mérite qu'elle ait de plus soit d'avoir une qualité de moins, c'est-à-dire d'avoir moins d'esprit. Or, Madame de Mirand était de ces bonnes personnes à qui les hommes, en pareil cas, sont si obligés de ce qu'elles ont l'esprit médiocre, Et Madame d'Orsan, de ces bonnes personnes, dont les hommes regardent les lumières involontaires comme une injure et tout de bonne foi, sans connaître leur injustice, car ils ne se débrouillent pas jusque-là. Me voilà au bout de ma réflexion. J'aurais pourtant grande envie d'y ajouter encore quelques mots pour la rendre complète. Le voulez-vous bien? Oui, je vous en prie. Heureusement que mon défaut là-dessus n'a rien de nouveau pour vous. Je suis insupportable avec mes réflexions, vous le savez bien. Souffrez donc encore celle-ci, qui n'est qu'une petite suite de l'autre, après quoi je vous assure que je n'en ferai plus, ou si par hasard il m'en échappe quelqu'une, je vous promets qu'elle n'aura pas plus de 3 lignes, et j'aurai soin de les compter. C'est donc ce que je voulais dire. D'où vient que les hommes ont cette injuste délicatesse dont nous parlions tout à l'heure? N'aurait-elle pas sa source dans la grandeur réelle de notre âme? Est-ce que l'âme, si on peut le dire ainsi, serait d'une trop haute condition pour devoir quelque chose à une autre âme? Le titre de bienfaiteur ne sied-il bien qu'à Dieu seul? Est-il déplacé partout ailleurs? Il y a apparence, mais qu'y faire? Nous avons tous besoin les uns des autres. Nous naissons dans cette dépendance et nous ne changerons rien à cela. Conformons-nous donc à l'état où nous sommes et, s'il est vrai que nous soyons si grands, tirons de cet état le parti le plus digne de nous. Vous dites que celui qui vous oblige a de l'avantage sur vous. Eh bien, voulez-vous lui conserver cet avantage, n'être qu'un atome auprès de lui? Vous n'avez qu'à être ingrat. Voulez-vous redevenir son égal? Vous n'avez qu'à être reconnaissant. Il n'y a que cela qui puisse vous donner votre revanche. S'enorgueillit-il du service qu'il vous a rendu? Humiliez-le à son tour et mettez-vous modestement au-dessus de lui par votre reconnaissance. Je dis modestement, car si vous êtes reconnaissante avec faste, avec hauteur, si l'orgueil de vous venger s'en mêle, vous manquez votre coup. Vous ne vous vengez plus, et vous n'êtes plus tous deux que de petits hommes qui disputaient à qui sera le plus petit. Ah, j'ai fini. Pardon, madame, en voilà pour longtemps, peut-être pour toujours. Revenons à madame d'Orsin et à son esprit. J'ignore si jamais le sien a été la cause qu'on ait moins estimé son cœur qu'on ne le devait, mais comme vous avez été frappé du portrait que je vous ai fait de la meilleure personne du monde, qui du côté de l'esprit n'était que médiocre, j'ai été bien aise de vous disposer à voir sans prévention un autre portrait de la meilleure personne du monde aussi, mais qui avait un esprit supérieur, ce qui fait d'ailleurs d'abord un peu contre elle. Sans compter que cet esprit va nécessairement mettre des différences dans sa manière d'être bonne, comme dans tout le reste du caractère. Par exemple, Madame de Miran, avec tout le bon cœur qu'elle avait, ne faisait pour vous que ce que vous la priez de faire. Vous ne vous rendez précisément que le service que vous osiez lui demander. Je dis que vous osiez, car on a rarement le courage de dire tout le service dont on a besoin. N'est-il pas vrai? On y va d'ordinaire avec une discrétion qui fait qu'on ne s'explique qu'imparfaitement. Et avec Madame de Miran, vous y perdiez. Elle n'en voyait pas plus que vous lui en disiez et vous servait littéralement. Voilà ce que produisait la médiocrité de ses lumières. Son esprit bornait la bonté de son cœur. Avec Madame d'Orsin, ce n'était pas de même. Tout ce que vous osiez lui dire, son esprit le pénétrait. Il en instruisait son cœur, il réchauffait de ses lumières et lui donnait pour vous tous les degrés de bonté qui vous étaient nécessaires. Et ce nécessaire allait toujours plus loin que vous ne l'aviez imaginé vous-même. Vous n'auriez pas songé à demander tout ce que Madame d'Orsin faisait. Aussi pouviez-vous manquer d'attention, d'esprit, d'industrie. Elle avait de tout cela pour vous. Ce n'était pas elle que vous fatiguiez du soin de ce qui vous regardait. C'était elle qui vous en fatiguait. C'était vous qu'on pressait, qu'on avertissait, qu'on faisait ressouvenir de telle ou telle chose, qu'on grondait de l'avoir oubliée. En un mot, votre affaire devenait réellement la sienne. L'intérêt qu'elle y prenait n'avait plus l'air généreux à force d'être personne. Il ne tenait qu'à vous de trouver cet intérêt incommode. Au lieu d'une obligation que vous comptiez avoir à Madame d'Orsin, vous étiez tout surpris de lui en avoir plusieurs que vous n'aviez pas prévues. Vous étiez servi pour le présent, vous l'étiez pour l'avenir dans la même affaire. Madame d'Orsin voyait tout, songeait à tout, devenant toujours plus serviable et se croyant obligée de le devenir à mesure qu'elle vous obligeait. Il y a des gens qui, tout bon cœur qu'ils sont, estiment ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font pour vous, l'évaluent en son glorieux et se disent « Oh, je le sers bien, il doit être bien reconnaissant. » Et Madame d'Orsin disait « Je l'ai servi plusieurs fois, je l'ai donc accoutumé à croire que je dois le servir toujours. Il ne faut donc pas tromper cette opinion qu'il a et qui m'est si chère. Il faut donc que je continue de la mériter. » De sorte qu'à la manière dont elle envisageait cela, ce n'était pas elle qui méritait votre reconnaissance. C'était vous qui méritiez la sienne, à cause que vous comptiez qu'elle vous servirait. Elle concluait qu'elle devait vous servir et le concluait avec un plaisir qui la payait de tout ce qu'elle avait fait pour vous. Votre hardiesse à redemander d'être servie faisait sa récompense. Son sublime amour-propre n'en connaissait point de plus touchante. Et plus là-dessus vous agissiez sans façon avec elle, plus vous la charmiez, plus vous la traitiez selon son cœur, et cela est admirable. Une âme qui ne vous demande rien pour les services qu'elle vous a rendus, si donc vous en preniez droit d'en exiger d'autres, qui ne veut rien que le plaisir de vous voir abuser de la coutume qu'elle a de vous obliger, en vérité, une âme de ce caractère a bien de la dignité. Peut-être l'élévation de pareils sentiments est-elle trop délicieuse. Peut-être Dieu défend-il qu'on s'y complaise. Mais moralement parlant, elle est bien respectable aux yeux des hommes. Allez, venons au reste. La plupart des gens d'esprit ne peuvent s'accommoder de ceux qui n'en ont point, ou qui n'en ont guère. Ils ne savent que leur dire dans une conversation. Et Madame d'Orsin, qui avait bien plus d'esprit que ceux qui en ont beaucoup, ne s'avisait point d'observer si vous en manquiez avec elle, et n'en désirait jamais plus que vous n'en aviez. Et c'est qu'en effet, elle n'en avait elle-même alors pas plus qu'il vous en fallait. Non pas qu'elle vous fît la grâce de régler son esprit sur le vôtre. Il se trouvait d'abord tout réglé, et elle n'avait point d'autre mérite à cela que celui d'être né avec un esprit naturellement raisonnable et philosophe, qui ne s'amusait pas à dédaigner ridiculement l'esprit de personne, et qui se sentait rapidement le vôtre que pour y conformer sans s'en apercevoir. Madame d'Orsin ne faisait pas réflexion qu'elle descendait jusqu'à vous. Vous ne vous en doutiez pas non plus. Vous lui trouviez pourtant beaucoup d'esprit, et c'est que celui qu'elle gardait avec vous ne servait qu'à vous, vous en donnez plus que vous n'en aviez d'ordinaire, et l'on en trouve toujours beaucoup à qui nous en donne. D'un autre côté, ceux qui en avaient tâchaient d'en montrer le plus qu'ils pouvaient avec elle. Non qu'ils crussent qu'il fallait en avoir, ni qu'elle examinerait s'ils en avaient, mais afin qu'elle leur fît l'honneur de leur en trouver. C'était la seule force de l'estime qu'ils avaient pour le sien qui les mettait sur ce ton-là. Les femmes surtout s'efforçaient de faire preuve d'esprit devant elles, sans exiger qu'elle en fît autant. Ces preuves étaient toujours faites à elles. Ainsi, elle ne venait pas pour voir combien elle avait d'esprit, elle venait seulement lui montrer combien elles en avaient. Aussi les laissait-elle étaler le leur tout à l'heure et elle ne les interrompait que plus souvent que pour approuver, que pour louer, que pour les remettre en haleine. Il me semblait lui entendre dire « Allons, brillez, mesdames, courage !» Et effectivement, elle brillait, ce qui demande beaucoup d'esprit, et Madame d'Orsin se contentait de les y aider. sorte d'inaction ou de désintéressement, qui en demande bien davantage et d'un esprit bien plus mâle. Vous auriez dit de jolis enfants qui, pour avoir un juge de leur adresse, venaient jouer devant un homme fait. Voici encore un effet singulier du caractère de Madame d'Orsin. Allez dans quelque maison du monde que ce soit, voyez-y des personnes de différentes conditions ou de différents états. Supposez-y un militaire, un financier, un homme de robe, un ecclésiastique, un habile homme dans les arts qui n'a que son talent pour toute distinction, un savant qui n'a que sa science. Ils ont beau être ensemble, tous réunis qu'ils sont, ils ne se mêlent point, jamais ils ne se confondent, ce sont toujours des étrangers les uns pour les autres, et comme genre de différentes nations, toujours des gens mal assortis et qui ne servent mutuellement de spectacle. Vous y verrez aussi une subordination sotte et gênante que l'orgueil cavalier ou le maintien imposant des uns et la crainte de s'émanciper dans les autres y conservent entre eux. L'un interroge hardiment, l'autre avec poids et gravité, l'autre attend pour parler qu'on lui parle. Celui-ci décide, ne sait ce qu'il dit. Celui-là a raison et n'ose le dire. Aucun d'entre eux ne perd de vue ce qu'il est et ajuste ses discours et sa contenance. Quelle misère! Oh, je vous assure qu'on était bien au-dessus de cette puérilité-là chez Madame d'Orsin. Elle avait le secret d'en guérir ceux qui la voyaient souvent. Il n'était point question de rang ni d'état chez elle. Personne ne s'y souvenait du plus ou du moins l'importance qu'il avait. C'étaient des hommes qui parlaient à des hommes, entre qui seulement les meilleures raisons l'emportaient sur les plus faibles. Rien que cela. Ou si vous voulez que je vous dise un grand mot, c'était comme des intelligences d'une égale dignité, sinon d'une force égale, qui avaient tout uniment commerce ensemble. Des intelligences entre lesquelles il ne s'agissait plus des titres que le hasard leur avait donnés ici-bas, et qui ne croyaient pas que leurs fonctions fortuites dussent plus humilier les uns qu'enorgueillir les autres. Voilà comme on l'entendait chez Madame d'Orsin. Voilà ce qu'on devenait avec elle par l'impression qu'on recevait de cette façon de penser raisonnable et philosophe que je vous ai dit qu'elle avait, et qui faisait que tout le monde était philosophe aussi. Ce n'est pas d'un autre côté que pour entretenir la considération qu'il lui convenait d'avoir, était née ce qu'elle était. Elle ne se conforma aux préjugés vulgaires et qu'elle ne se prêta volontiers aux choses que la vanité des hommes estime, comme par exemple d'avoir des liaisons d'amitié avec des gens puissants qui ont du crédit ou des dignités et qui composent ce qu'on appelle le grand monde. Ce sont là des attentions qui ne seraient pas sages de négliger. Elle contribue à vous soutenir dans l'imagination des hommes. Et c'était dans ce sens-là que Madame d'Orsin les avait. Les autres les ont par vanité, et elle ne les avait qu'à cause de la vanité des autres. Je vous ai dit que je serais long sur son compte, et comme vous voyez, je vous tiens parole. Encore un petit article et je finis. Car je renonce à je ne sais combien de choses que je voulais dire et qui tiendraient trop de place. On peut ébaucher un portrait en peu de mots, mais le détailler exactement, comme je vous avais promis de le faire, c'est un ouvrage sans fin. Venons à l'article qui sera le dernier. Madame d'Orsin a cet excellent cœur que je lui ai donné, a cet esprit si distingué qu'elle avait. Je voyais une âme forte, courageuse et résolue, de ces âmes supérieures à tout événement, dont la hauteur et la dignité se plient sous aucun accident humain, qui retrouvent toutes leurs ressources où les autres les perdent, qui peuvent être affligées, jamais abattues ni troublées, qu'on admire plus dans leurs afflictions qu'on ne songe à les plaindre, qui ont une tristesse froide et muette dans les plus grands chagrins, et une gaieté toujours décente, dans les plus grands sujets de joie. Je l'ai vue quelquefois dans l'un et l'autre de ses états, mais je n'ai jamais remarqué qu'il prisse rien sur sa présence d'esprit sur son attention pour les moindres choses, sur la douceur de ses manières et sur la tranquillité de sa conversation avec ses amis. Elle était toute à vous, quoiqu'elle eût lieu d'être toute à elle. Et j'en étais quelquefois si surprise que, malgré moi et ma tendresse pour elle, je m'occupais plus à la considérer qu'à partager ce qui la touchait en bien ou en mal. Je l'ai vue dans une longue maladie où elle périssait de langueur, où les remèdes ne la soulageaient point, où souvent elle souffrait beaucoup. Et sans son visage abattu, vous auriez ignoré ses souffrances. Elle vous disait « Je souffre » si vous lui demandiez comment elle était. Et elle vous parlait de vous et de vos affaires, où vous suivez paisiblement la conversation si vous ne lui demandiez point. Je suis sûr que toutes les femmes sentaient ce que valait Madame d'Ursin. Mais il n'y avait que les femmes du plus grand mérite qui, je pense, eussent la force de convenir de tout le sien, et pas une d'entre elles qui n'eût été glorieuse de son estime. Elle était la meilleure de toutes les amies, et elle aurait été la plus aimable de toutes les maîtresses. N'eût-on vu Madame d'Ursin qu'une ou deux fois, elle ne pouvait être une simple connaissance pour personne. Et quiconque disait « Je la connais », on disait une chose qui était bien aise conçue, et une chose qui était remarquée par les autres. Enfin, ses qualités et son caractère la rendaient si considérable et si importante qu'il y avait de la distinction à être de ses amis, de la vanité à la connaître et du bonheur à parler d'elle équitablement ou non. C'était être d'un parti que de l'aimer et de lui rendre justice, et d'un autre parti que de la critiquer. Ses domestiques l'adoraient, ce qu'elle aurait perdu de son bien, ils auraient pu le perdre autant qu'elle. Et par la même méprise de leur attachement pour elle, ils s'imaginaient être riches de tout ce qui appartenait à leur maîtresse. Ils étaient fâchés de tout ce qui la fâchait, réjouis de tout ce qui la réjouissait. Avait-elle un procès, il disait « Nous plaidons ». Achetait-elle, « Nous achetons ». Jugez de ce que cela supposait d'aimable dans cette maîtresse et de tout ce qu'il fallait qu'elle fût pour enchanter, pour apprivoiser jusque-là, comment dirais-je, pour jeter dans de pareilles illusions cette espèce de créature dont les meilleurs ont bien de la peine à nous pardonner leur servitude, nos aises et nos défauts. Qui, même en nous servant bien, ne nous aime ni ne nous haïsse, et avec qui nous pouvons tout au plus nous réconcilier par nos bonnes façons. Madame d'Orsin était extrêmement généreuse, mais ses domestiques étaient fort économes, et malgré qu'elle en eût, l'un corrigeait l'autre. Ses amis, oh, ses amis me permettront de les laisser là. Je ne finis point. Qu'est-ce que cela signifie? Allons, voilà qui est fait. Où en étions-nous de mon histoire? Ah oui, encore chez Madame d'Orsin, de chez qui je vais sortir. Je supprime les caresses qu'elle me fit et dis tout ce que les messieurs avec qui j'avais dîné dirent de galant et d'avantageux pour moi. Il vint quelqu'un. Madame de Mirand saisit cet instant pour se retirer. Nous la suivîmes, Valville et moi. Son amie accourut après nous pour m'embrasser, et nous voilà partis pour me reconduire à mon couvent. Dans tout cela, je n'ai fait aucune mention de Valville. Qu'est-ce que j'en aurais dit? Qu'il avait à tout moment les yeux sur moi, que je levais quelquefois les miens sur lui, mais tout doucement et comme à la dérobée, que lorsqu'on me parlait, je le voyais intrigué et comme en peine de ce que j'allais répondre, et regardant ensuite les autres pour voir s'ils étaient contents de ce que j'avais répondu. Ce qui, à vous dire vrai, leur arrivait assez souvent. Je crois bien que c'était un peu par bonté, mais il me semble, autant qu'il m'en souvient, qu'il y entrait un peu de justice. J'avoue que je fus d'abord embarrassé, et mes premiers discours sans ressentir, mais cela n'a pas si mal après, et je me tirerai passablement d'affaire, même au sentiment de Madame de Mirand, qui tout en badinant me dit dans le carrosse « Eh bien, petite fille, la compagnie que vous nous quittez est-elle de votre goût? Vous êtes assez du sien, ce qu'il m'a paru, et nous ferons quelque chose de vous. » « Oui, da, dit Valville sur le même ton, il y a lieu d'espérer que Mademoiselle Marianne ne déplaira pas dans la suite. » Je me mets à rire. « Hélas, répondis-je, je ne sais ce qui m'en arrivera, mais il ne tiendra pas à moi que ma mère ne se repente point de m'avoir pris pour sa fille. » Et ce fut en continuant ce badinage que nous arrivâmes au couvent. « Serons-nous longtemps sans la revoir ?» dit Valville à Madame de Mirand, quand il me donna la main pour m'aider à descendre de carrosse. « Oh, je pense que non, répondit-elle. Il y aura peut-être encore quelque chiné chez Madame d'Orsin. Et comme on s'est assez bien trouvé de nous, peut-être nous reverra-t-on chercher. Point de patience, allez, partez. Conduisez Marianne. » Et là-dessus, nous sonnâmes. On vint m'ouvrir, et Valville n'eut que le temps de soupirer de ce qu'il me quittait. « Oh, vous allez vous renfermer, me dit-il, et dans un moment, il n'y aura plus personne pour moi dans le monde. On nous dit ce que je sens. Eh, qu'est-ce qui sera pour moi, repartis-je. Je n'y connais que vous et ma mère. Je ne me soucie pas d'y en connaître davantage. » Ce que je dis sans le regarder, mais il n'y perdait rien. Ce petit discours valait bien un regard. Il m'en parut pénétré, et pendant qu'on ouvrait la porte, il eut le secret, ou je ne sais comment, d'approcher ma main de sa bouche sans que Madame de Mirand, qui l'attendait dans son carrosse, s'en aperçût. Du moins, crut-il qu'elle ne le voyait pas à cause qu'elle ne devait pas le voir. Je raisonnais à peu près de même. Cependant, je retirai ma main, mais quand il ne fut plus temps, on s'y prend toujours trop tard en pareil cas. Enfin, me voici rentré, moitié rêveuse et moitié gaie. Il s'en allait, et moi je restais. Il me semble que la condition de ceux qui restent est toujours plus triste que celle des personnes qui s'en vont. S'en aller, c'est un mouvement qui dissipe et rien ne distrait les personnes qui demeurent. C'est elle que vous quittez, qui vous voit partir et qui se regarde comme délaissée, surtout dans un couvent, qui est un lieu où tout ce qui se passe est si étrange à ce que vous avez dans le cœur, un lieu où l'amour est si dépaysé et dont la clôture vous enferme, rend ces sortes de séparations plus sérieuses et plus sensibles qu'ailleurs. D'un autre côté aussi, j'avais de grandes raisons de gaieté et de consolation, et de la manière dont Madame de Mirand en agissait, à toute la conduite qu'elle tenait, il n'y avait qu'à patienter et prendre courage. Au sortir d'avec Valville, je montai à ma chambre, où j'allais me déshabiller et me remettre dans mon négligé, quand il fallut aller souper. Je me laissai donc comme j'étais et me rendis au réfectoire avec tous mes atours. Entre les pensionnaires, il y en avait une près de moi, à peu près de mon âge, et qui était assez jolie pour se croire belle, mais qui se la croyait tant, je dis belle, qu'elle en était sotte. On ne la sentait occupée que de son visage, occupée avec réflexion. Elle ne songeait qu'à lui, elle ne pouvait pas s'y accoutumer. Et on lui dit, quand elle vous regardait, que c'était pour vous faire admirer ses grands yeux, qu'elle rendait fiers ou doux, suivant qu'il lui prenait fantaisie de vous en imposer ou de vous plaire. Mais d'ordinaire, elle les adoucissait rarement. Elle aimait mieux qu'ils fussent imposants que gracieux ou tendres, à cause qu'elle était fille de qualité glorieuse. Vous vous souvenez du discours que j'avais tenu à la messe lorsque je me présentais à elle devant Madame de Mirand? Je lui avais confié l'état de ma fortune et tous mes malheurs, et ma bienfaitrice, qui en fut si touchée, avait oublié de lui recommander le secret en me mettant chez elle. Oh, on ne songe pas à tout. J'y avais pourtant songé, moi, dès le soir même, 2 heures après que je fus dans la maison. Et j'avais bien humidement, humblement, prié de ne point divulguer ce que je lui avais appris. Hélas, ma chère enfant, je les garde, m'avait-elle répondu. Jésus, mon Dieu, ne craignez rien. Est-ce qu'on ne sait pas la conséquence de ces choses-là? Mais, soit qu'il fût déjà trop tard que j'en avertis, quoi qu'il y eût que 2 heures qu'elle lui fût instruite, soit qu'en la conjurant de ne rien dire, je lui eusse rendu mon secret plus pesant et plus difficile à garder, et que cela fût servi qu'à lui faire venir la tentation de le dire, à 9 heures du matin, le lendemain, j'étais, comme on dit, la fable de l'armée. Mon histoire courait tout le couvent, et je ne vis que des religieuses ou des pensionnaires qui chuchotaient aux oreilles les unes des autres en me regardant, et qui ouvraient sur moi les yeux du monde les plus indiscrets dès que je paraissais. Je compris bien ce qui en était cause, mais qu'y faire? Je baissai les yeux et passai mon chemin. Il n'y en eut pas une, au reste, qui ne me prévînt d'amitié et qui ne me fît des caresses. Je pense que d'abord la curiosité de m'entendre parler les y engagea. C'est une espèce de spectacle qu'une fille comme moi, qui arrive dans un couvent. Est-elle grande? Est-elle petite? Comment marche-t-elle? Que dit-elle? Quel habit, quelle contenance a-t-elle? Tout en est intéressant. Et cela finit ordinairement par la trouver encore plus aimable qu'elle ne l'est, pourvu qu'elle le soit un peu, ou plus déplaisante, pour peu qu'elle déplaise. C'est là l'effet de ces sortes de mouvements qui nous portent à voir les personnes dont on nous conte des choses singulières. Et cet effet me fut avantageux. Toutes ces filles m'aimèrent, surtout les religieuses, qui ne me disaient rien de ce qu'elles savaient de moi. Vraiment, elles n'avaient garde, comme avait dit notre abbesse, mais qui, dans les discours qu'elles me tenaient, et tout en se récriant sur mon air de douceur et de modestie, sur mon aimable petite personne, prenaient avec moi des tons de lamentation si touchants que vous eussiez dit qu'elles pleuraient sur moi. Et le tout à propos de ce qu'elle savait et de ce que, par discrétion, elle ne faisait pas semblant de savoir. Voyez que cela était adroit. Quand elle m'aurait dit: pauvre petite orpheline, que vous êtes à plaindre d'être réduite à la charité des autres, elle ne se serait pas expliquée plus clairement. Venons à ce qui fait que je parle de ceci. C'est que cette jeune pensionnaire, qui se croyait si belle et qui était si fière, avait été la seule qui m'eût dédaigné et qui ne m'eût pas dit un mot. À peine pouvait-elle se résoudre à payer d'une imperceptible inclination de tête les révérences que je ne manque jamais de lui faire lorsque je la rencontrais. Vous voyez que cela lui coûtait. Un jour même qu'elle se promenait dans le jardin avec quelques-unes de nos compagnes, et que je vins à passer avec une religieuse, elle laissa tomber négligemment un regard sur moi, et je l'entendis qui disait, mais d'un ton de princesse: oui, elle est assez bien, c'est gentil. C'est donc une dame qui a la charité de payer sa pension. Oh, ne trouvez-vous pas qu'elle ressemble à la javotte? C'était une fille qui la servait et qui en effet me ressemblait, mais fort en laid. Je remarquai qu'aucune de celles qui l'accompagnaient ne répondit. Quant à moi, je rougis beaucoup et les larmes m'en vinrent aux yeux. La religieuse avec qui je me promenais, fille d'un très bon esprit, qui était juste d'inclination pour moi et que j'aimais aussi, leva les épaules et se tut. « Mon Dieu, qu'il y a de cruels gens dans le monde, ne puis-je m'empêcher de dire en soupirant. Car aussi bien il aurait été inutile de me retenir et de passer cela sous silence. Voilà qui était fini, on me connaissait. Consolez-vous, me dit la religieuse en me prenant la main. Vous avez des avantages qui vous vengent bien de cette petite sotte-là, ma fille. Et vous pourriez être plus glorieuse qu'elle si vous n'étiez pas plus raisonnable. Elle n'entendait rien de ce qu'elle a de plus que vous. C'est à elle à être jalouse. Vous avez bien de la bonté, ma mère, lui répondis-je en la regardant avec reconnaissance. Hélas, vous parliez d'être raisonnable. Il me serait bien aisé de ne pas rougir de mes malheurs si tout le monde aussi avait autant de raison que vous. Voilà donc ce que j'avais déjà essuyé de cette superbe pensionnaire qui ne pouvait pas me pardonner d'être peut-être aussi belle qu'elle. Bon, quand je dis peut-être, c'est pour parler comme elle, à qui, toute vaine qu'elle était de sa beauté, il ne sait pas que d'être difficile et hardi, je pense, de décider qu'elle valait mieux que moi. Et c'était apparemment cette difficulté qui l'aigrissait si fort et lui donnait tant de rancune contre l'orpheline. Quoi qu'il en soit, je me rendis donc au réfectoire, paré comme vous savez que j'étais, et qui plus est, en aise de l'être, à cause de ma jalouse, à qui par hasard je m'avisais de songer en chemin, et qui allait, à mon avis, passer un mauvais quart d'heure et soutenir une comparaison fâcheuse de ma figure à la sienne. Ni elle ni personne de la maison ne m'avait encore vu dans tous mes ajustements. Et il est vrai que j'étais brillante. J'arrive. Je vous ai dit que je n'étais pas haï. Mes façons douces et avenantes m'avaient attiré la bienveillance de tout le monde et faisaient qu'on aimait à me louer et à me rendre justice. De sorte qu'à mon apparition, tous les yeux se fixèrent sur moi, et on se fit l'une à l'autre de ces petits signes de tête qui marquent une agréable surprise et qui font l'éloge de ce qu'on voit. En un mot, je causais un moment de distraction dont je devais être très flatté, et de temps en temps, on regardait ma rivale pour examiner la mine qu'elle faisait, comme si on avait voulu voir si elle ne tenait pas pour battue, car on savait sa jalousie. Quant à elle, aussitôt qu'elle m'eut vu, j'observai qu'elle baissa les yeux en souriant de l'air dont on sourit quand quelque chose paraît ridicule. C'était apparemment tout ce qu'elle imagina de mieux pour se défendre, et vous allez voir sur quoi elle fondait cet air railleur qu'elle jugea à propos de prendre. Le souper finit, et nous passâmes toutes ensemble dans le jardin. Quelques religieuses nous y suivirent, entre autres celle dont je vous ai déjà parlé, et qui était mon amie. Dès que nous y fûmes, mes compagnes m'entourèrent. L'une me demandait « Où avez-vous donc été? On ne vous a pas vu aujourd'hui. » L'autre regardait ma robe en maintien d'étoffe et disait « voilà du beau linge, et tout cela vous sied à merveille. Oh, vous êtes bien coiffée !» Et mille autres bagatelles de cette espèce digne de l'entretien de jeunes filles qui voient de la parure. Mon amie, la religieuse, vint en mêler à sa manière, et s'adressant malicieusement, sans doute, à celle qui me dédaignait tant et qui s'avançait vers elle, « N'est-il pas vrai, mademoiselle, que ce serait là une belle victime à offrir au Seigneur ?» lui dit-elle. « Ah, mon Dieu, le beau sacrifice que ce serait si mademoiselle renonçait au monde en se faisant religieuse !» Et vous comprenez bien que c'était de moi dont elle parlait. Et ma mère, je crois pour moi que c'est son dessein. Elle ferait fort bien, repartit l'autre. Ce serait du moins le parti le plus sûr. Et puis, m'apercevant et m'apostrophant, Vous avez là une belle robe, Marianne, et tout y répond. Elle est chère au moins, il faut que la dame qui a soin de vous soit très généreuse. Quel âge a-t-elle? Est-elle vieille? Songe-t-elle à vous assurer de quoi vivre? Elle ne sera pas éternelle et ce serait fâcheux qu'elle ne vous mît en état d'être toujours aussi proprement mise. Aussi accoutumée, c'est ce que je vous conseille de lui dire. Le silence qui se vit à ce discours et qui vint en partie de l'étonnement où il jeta toutes ses filles me déconcerta. Je restai muette et confuse en voyant la confusion des autres et ne pus m'empêcher de pleurer avant que de répondre. Pendant que je me taisais, mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement-là, mademoiselle? Et de quoi vous mêlez-vous? Repartit pour moi cette religieuse qui m'aimait. Savez-vous bien que votre mauvaise humeur m'humilie ici que vous, et qu'on n'ignore pas le motif d'un mouvement si hautain? C'est votre défaut que cette hauteur. Madame votre mère vous en avertit quand elle vous mit ici, et vous pria de tâcher de vous en corriger. J'y fais ce que je puis, profitez de la leçon que je vous donne. Et en parlant à mademoiselle, ne dites plus Marianne, comme vous venez de le dire, puisqu'elle vous appelle toujours mademoiselle, et qu'il n'y a que vous, de toutes vos compagnes, qui prenez la liberté de l'appeler autrement. Vous n'avez pas droit de vous dispenser des devoirs d'honnêteté et de politesse qui doivent s'observer entre vous. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce qui vous afflige et pourquoi pleurez-vous? Ceci me regardait. Y a-t-il rien de honteux dans des malheurs qui vous sont arrivés et qui font que vos parents vous sont perdus? Il faudrait être un bien mauvais esprit pour abuser de cela contre vous, surtout avec une fille aussi bien née que vous l'êtes, et qui ne peut assurément en venir que de très bons lieux. Si on juge de la condition des gens par l'opinion que leur façon vous en donne, celle-ci, qui se croit plus que vous, ne risque rien à vous regarder comme son égale en essence, et serait trop heureuse d'être votre égale en bon caractère. Non, ma mère, répondis-je d'un air doux mais contristé. Non, je n'ai rien. Dieu m'a tout ôté et je dois croire que je suis au-dessous de tout le monde, mais j'aime encore mieux être comme je suis que d'avoir tout ce que mademoiselle a de plus que moi et d'être capable d'insulter les personnes affligées. Ce discours et mes larmes qui s'y mêlaient émurent le cœur de mes compagnes et les mirent de mon parti. Et qui est-ce qui songe à l'insulter? S'écria ma jalouse en rougissant de honte et de dépit. Quel mal lui fait-on? Je vous prie de lui dire qu'elle prenne garde à ce qu'elle deviendra. Il faut donc bien des précautions avec cette petite fille-là. On ne lui répondit rien. Ma religieuse lui avait déjà tourné le dos et m'emmenait d'un autre côté avec la plus grande partie des autres pensionnaires qui nous suivirent. Il n'en resta qu'une ou deux avec mon ennemi, encore l'une était-elle sa parente et l'autre son amie. Cette petite aventure que j'ai crue assez instructive pour les jeunes personnes à qui vous pourriez donner mes livres à lire, fit que je redoublai de politesse et de modestie avec mes compagnes, ce qui fit qu'à leur tour, elles redoublèrent d'amitié pour moi. Reprenons à présent le cours de mon histoire.